Griffe. Les cultures bizarres.
Les cucurbitacées, présentées par Aurélie.
Parler des migrants, de ceux qui sont actuellement forcés d'être sur les routes dans les cucurbitacées, pouvoir l'aborder sous un angle de cultureux, on en rêvait carrément par ici. Et grâce à notre invitée du jour, c'est chose possible. Elle est metteur en scène, elle est auteure, marionnettiste, formatrice. Aujourd'hui, elle présente une Énéide au Théâtre Populaire Roman à La Chaux-de-Fonds. Sur la scène du TPR, elle raconte une histoire de migrants d'après les poèmes de Virgile. Elle s'appelle Sandra Amodio et on traverse cette émission avec elle d'une côte à l'autre. Bienvenue. Bienvenue Sandra Amodio.
Merci, bonsoir. Bonjour Aurélie.
Une Énéide s'était présentée hier soir pour la première fois au TPR, pour la première fois, la première fois mondiale, hein, carrément, devant un vrai public. Comment ça s'est passé?
Eh bien, ça s'est bien passé, sous haute tension, parce que voilà, c'est une première, donc les comédiens, moi, on était tous un peu en attente de ce moment où on pouvait enfin libérer les énergies ont été libérées, et puis le public en a pris plein la figure. Voilà, c'est un spectacle assez radical. Je ne fais pas de concessions. De concessions, non. C'est du coup, les gens ont ressenti pas mal de violence parce que c'est une violence très retenue comme ça. Et puis c'est une réalité très dure. Quoi. Les gens, ils peuvent enfin s'imaginer ce que ça doit être d'être sur un bateau bousculé de droite et de gauche.
On en parlera de cette réalité parfois tordue. On va plonger dans ce projet sous peu. On a toute la vie, hein, d'ailleurs, toute la vie de la prochaine heure, en tout cas, pour en parler. On plongera aussi dans l'Angleterre du 17e avec Purcell. Purcell, son seul opéra, c'est Didon et Aeneas. Ton spectacle s'appelle Une Énéide. Les grands malins qu'on est, on fait un lien terrible entre les deux. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a bossé pour toi.
Les cultures bitacées.
La rédaction veut te parler.
Salut Sandra, c'est Mike. Avec deux jeunes gens, on a écouté Lamentation de Didon, un air d'opéra, et on la résume à la sauce banlieue, madame. Wesh wesh, posé, racaille, quoi.
C'est ce qui t'attend dans cette émission, t'as de quoi te préparer, c'est la chronique que t'avais commandée, ça te convient comme promesse?
Très bien, merci beaucoup.
Merci Sandra Amodio d'être avec nous pour la prochaine heure, on te retrouve juste après ceci. Une Énéide, la tienne Sandra Amodio, parle des migrants. Comment tu décides tout à coup d'amener les migrants sur la scène du TPR? Ça, c'est en réaction à quoi?
Alors, c'est en réaction aux votations du 9 février 2014. Je suis donc concernée de près étant italienne, permissée, même si je suis née en Suisse. La réalité des papiers font que je fais partie de ces 2 millions d'étrangers dont on ne sait quoi faire dans le futur. Donc tu vois bien ma position, je suis vexée, je me dis, vraiment vexée, triste, bref, la boule au ventre, je me dis comment je vais vivre, qu'est-ce que je fais, comment je continue. Bon oui, peut-être d'aller demander ma nationalité suisse. Mais je ne suis pas toute seule, j'imagine que d'autres sont dans la même situation, avec le même ressentiment, donc...
On sent en danger tout à coup, vraiment?
Oui, moi je... en fait, pas tellement moi, mais c'est plutôt mes amis autour, qui sont des amis suisses, qui me disent, Sandra, maintenant arrête de déconner... Fais ton permis, enfin ton passeport. Donc c'était plutôt les camarades, les amis. Et les choses de la vie font que je rencontre la dernière de couverture de la nouvelle édition de Virgile, l'Énéide. Je lis la dernière de couverture et je me dis, je vais lire ce texte. Ce sera mon livre de chevet. Ça va me permettre de me calmer, de comprendre à travers l'histoire, d'essayer de m'approprier aussi ce problème pour en faire quelque chose, pour le partager, puis un peu pour comme un exutoire. Et c'est ainsi que je décide de me lancer corps et âme dans Virgile, Énéide, et d'en faire un spectacle, donc de concevoir un spectacle qui s'appelle Une Énéide.
L'Énéide de Virgile, c'est quelque chose comme 10 000 vers, hein, ça se lit pas en un...
Non, en c'est 12 heures de lecture.
Et ça raconte l'épopée justement d'Énée, un mec qui quitte Troie dans les flammes, qui conquiert d'autres terres. En gros, c'est une histoire de migration pleine d'espoir, on peut dire ça comme ça?
Donc oui, les dieux entrent en jeu, donc on lui donne une mission, mais il ne l'entend pas. Au départ, il est, imagine-toi, comme n'importe quel réfugié syrien qui débarque sur les côtes européennes. Donc vraiment avec la peur au ventre, le désespoir, il quitte tout, il perd sa femme hein, pendant le départ de Troie, il voit sa maison en feu, sa population anéantie. Donc Virgile, il réussit à transcrire vraiment des images hyper actuelles en fait. Tu peux vraiment te croire devant le téléjournal. Et donc on a un héros qui n'est pas encore un héros, c'est quelqu'un qui est blessé, qui est meurtri et qui voilà, prend le courage de partir. Parce que sa femme le lui dit d'ailleurs, va-t'en, va-t'en, une terre t'est promise. Et c'est comme ça qu'il décide de prendre la mer avec des compagnons et de partir vers cet Eldorado qu'on lui ont promis que les dieux, mais il ne comprend toujours pas ce que c'est. Et c'est au fil du voyage, donc au fil de son périple, donc il va d'abord aller taper contre la Libye, ensuite il arrive à Carthage, chez Didon, là il tombe amoureux, enfin il y a une histoire d'amour, et puis il repart, il arrive en Sicile, pour finalement débarquer au Latium, et c'est là... Entre-temps, pardon, il fait une descente aux enfers.
Ah oui, c'est là, pas rien. Voilà,
c'est pas rien. Et c'est là vraiment où donc son père, entre-temps, qui est décédé, vient, donc son fantôme vient lui dire, écoute mon fils, remonte et va conquérir ta nouvelle terre et tu auras un futur extraordinaire. Et c'est ainsi qu'il remonte de l'enfer en n'étant plus aussi peureux, n'étant plus ce migrant et ce futur réfugié, mais là il devient plutôt conquérant, donc il a un esprit guerrier, et il arrive sur le Latium, il tue tout le monde, il s'empare du Latium, mais le roi du Latium lui dit, ok, tu vas devenir le roi de cette terre, mais on te demande une seule chose, c'est d'adopter notre langue, et c'est ainsi qu'est né le latin.
Le Latium, voilà. Qui était rien d'autre que l'ancêtre, on peut dire, de Rome, de l'Empire.
Exact, voilà. Et donc, Aîné est l'ancêtre de l'Empire romain et donc de Rome. Et donc, c'était ça, la nation qu'il allait fonder.
Ça raconte aussi que dans un Omicron, il y a quelqu'un qui quitte un lieu, parfois et souvent en détresse, quel cas d'Aîné, mais il y a quelqu'un aussi qui va essayer de conquérir un autre lieu.
Exact. Alors, donc, dans cette question-là, si je reviens à la votation du 9 février et ce qui s'en est suivi, moi j'en ai eu ras-le-bol de ces discours, l'islamophobie, l'islamisation, de voir tous ces réfugiés comme des potentiels dangers. Ce texte, je pouvais l'utiliser aussi pour poser la problématique de la différence entre le migrant et le conquérant. Et de justement dire que ces migrants actuellement, ils ont un espoir, mais si l'espoir c'est forcément vu comme une conquête, nous sommes tous des conquérants. Alors, moi, mon père, quand il est arrivé de son Italie natale et profonde, où il était pauvre, ma mère a vécu la Deuxième Guerre mondiale, elle était adolescente, hein. Quand elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle est arrivée en Suisse, eh bien sûr, ces gens-là, ils avaient envie de conquérir quelque chose. Mais ce quelque chose, c'était un bout de pain, un bout de chocolat, un appartement. Et voilà, donc nous avons tous des conquêtes personnelles. Mais de là, aller se retrouver tous avec une djellaba et puis un foulard sur la tête, ce que j'ai pu entendre hein, d'ailleurs, il ne faut pas exagérer non plus, quoi.
Cette pièce part d'une votation, donc oui. Part d'une votation politique. Oui. Est-ce que ça en devient, maintenant une année et demie plus tard, une pièce politique ?
Alors, très vite, Alors non. Puis oui. Donc non, parce que le sujet, je ne l'ai pas traité de manière politique, c'est-à-dire que aussi, vu qu'on a été rattrapé par l'actualité, parce que tout de suite après, souviens-toi Aurélie, on a eu la crise hein, au mois de juillet, et donc là on s'est dit, mais on est vraiment au top, on est dedans quoi, notre spectacle est dans la thématique. Alors très vite, il y avait eu cette catastrophe du mois d'avril où il y a un bateau avec 800 personnes qui a coulé, et les 800 corps, juste pour la petite histoire, ils sont toujours dans la cale, hein, enfermés. Et le président italien, enfin le ministre italien Renzi, voulait aller récupérer ces corps, mais l'opération coûte beaucoup trop cher. Donc le spectacle est devenu un hommage aux réfugiés, aux migrants, pardon, oui, mais aux réfugiés aussi, et donc un hommage aux naufragés. Voilà. Donc, non, c'est pas politique dans le sens où je ne parle. Si tu veux, il est en filigrane maintenant. Elle est en filigrane cette problématique entre le migrant et le conquérant. Mais c'est surtout cet hommage qui est donné aux naufragés.
Quand on parle d'un spectacle sur les migrants, est-ce qu'on, enfin, on peut avoir peur d'un spectacle plutôt glauque, plutôt sombre, vu tout ce qui ressort dans nos médias alentours. Est-ce que c'est ça que tu as l'impression d'avoir fait?
Alors, au vu des témoignages d'hier soir, y a une première partie qui se passe dans un espace qui symbolise une cale. Bon, la scénographie est assez épurée, très belle, de Anna Popek. Oui, j'ai voulu, ces premières 20 minutes sont assez effroyables, en fait. Parce que j'avais envie de mettre en scène les sensations que peuvent éprouver ces gens, pour que le public se rende compte vraiment de la réalité, quoi. Que nous, on les voit dans les médias, mais dans les faits, il y a des gens qui sont en train d'éprouver quelque chose avec leur cœur, leur corps, leur âme, et c'est juste épouvantable. Des gens n'ont jamais vu la mer, hein. Faut pas oublier que ces gens, pour la plupart, n'ont jamais vu la mer, n'ont jamais mis les pieds sur un bateau, donc je te laisse imaginer. Moi, je sais que j'ai le mal de mer. Mais pourtant, je suis née au bord d'un lac, j'adore le
lac de Neuchâtel, hein. Ce jour.
Voilà. Donc, ces 20 premières minutes, oui, sont assez sombres, enfin, hardes. Après, il y a du comique. Il y a quand même des bribes de rire. Parce que peu à peu, enfin, je ne vais pas révéler tout le spectacle, mais il y a quand même une humanisation. On va vers le public, on les accroche, on leur parle.
Donc il y a un bout, il y a un bout du tunnel dans ton spectacle.
Oui, il y a un bout du tunnel, ouais. Il y a un bout du tunnel que je voulais, qui est clair, c'est que ce rassemblement d'êtres humains face à d'autres êtres humains, d'accepter l'autre, de le regarder, de l'écouter, de s'adapter à l'autre. Voilà, c'est l'altérité, c'est fondamental dans ce qui nous arrive actuellement.
Dans ton spectacle, c'est Flex Fab qui signe les créations sonores. Flex Fab, on le connaît, on a même fait une semaine spéciale sur Griff la semaine passée pour lui. Un musicien neuchâtelois qui est, comment dire, montant. Oui, c'est ça qu'on va dire. Quelle création, c'est une création son importante puisque les acteurs parlent finalement si peu.
Oui, alors on est presque dans la première partie du spectacle, plutôt dans un rapport chorégraphié, hein, quasi. Donc la bande son est très très importante. Alors là, nous avons choisi des extraits de Virgile qui sont en voix off, et lui, il a composé toute la musique d'ambiance et puis des morceaux. Donc il a été très 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 sollicité et vraiment il a fait un boulot extraordinaire.
Alors, pendant qu'on a vu que tu as les oreilles aiguisées avec Flex Fab, Sandra Amodio, on va utiliser tes oreilles saines, en forme, pour te faire notre cadeau.
Mais les cultures, quel son tu fais quand on te retourne?
C'est Fabrice qui t'a emballé un morceau de musique. Fabrice, c'est notre programmateur, un mec ultra généreux qui a décidé de choisir dans sa méga collection un morceau qui serait parfait pour toi. Tu t'attends à quoi?
J'aurais dit classique et puis en même temps plutôt électro, en fait.
Ouais, on est très loin de ça, écoute ça.
Les cultures bitassées.
Sandra, en qualité de fille d'immigrée, tu dois connaître mieux que personne la valeur d'un foyer, l'importance d'une maison. Parce que même sans l'avoir vécu, tu as sans doute gravé au plus profond de ton ADN ce sentiment de déracinement. Quitter sa maison, devenir sourd sous les bombes et vivre l'enfer, lorsque cette phrase sort de la bouche rocailleuse de Tom Waits, la chanson « Hell Broke Loose » devient presque l'hymne tristement officiel des migrants. Mais peut-être aussi le tien ?
You'll meet up at the suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd? And left, right,
the sorry ass is able to a goddamn desk. And hell broke loose. Hell broke loose. Left, right, left. What did you do before the war? I was a chef. I was a chef. And what was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my buddy and I wept, wept. I come down from the meth, so I slept, slept. I had a good home, but I left, left. Pants did the wind for a joke. I pranced right in with the dope. Glanced at her shin, she said nope. Coke. Left, right, left. Nimrod bought fish, have you any wool? Get me another body bag, the body bag's full. And my face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope. And left, right, left. Kelly Prosciutto got his thumbs blown off. Sergio's developing a real bad cough. Sergio's developing a real bad cough. And hell broke loose. Hell broke loose. Hell. Boom went his head away and boom went Bowery. Oh, what the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead. And left, right, left. While I was over here I never got to vote.
Hell Broke Loose, un morceau de Tom Waits, un morceau qui tirait bien, Sandra.
Oui, ben merci beaucoup, j'adore Tom Waits.
Donc ça te va bien, tu l'acceptes.
Oui, oui, très bien.
La migration, un thème au centre d'une Énéide, hein, le spectacle de ta compagnie, Carré Rouge Compagnie, on l'a nommé. On en parle maintenant.
Les cultures métassées.
Un thème qui était aussi présent dans ton précédent spectacle, Sandra Key. Oui. Où là on parlait d'Alzheimer, mais aussi de l'émigration. Est-ce que c'est un thème que tu sens te coller au basket pour encore longtemps ?
Non, non, non. Je crois que c'était voilà, c'est ça fait partie de moi, ça fait partie de ma biographie, de mon histoire. Je pense que dans tous mes spectacles, la question du repère, la question de l'identité sont présentes, ces questions-là. Maintenant, le prochain spectacle, je ne vais pas reparler de ce thème-là, migration. Non, c'est pas... j'ai envie de passer à autre chose, mais si tu veux, ça fait partie de mes gènes. Donc, en filigrane, peut-être que c'est là. C'est clair que dans les choix des textes, je suis toujours plutôt inspirée par des textes qui relèvent des questions fondamentales, des questions universelles. Donc je serais plutôt attirée par des textes tragiques ou comiques, mais comiques au sens antique du terme. Le drame bourgeois ne m'intéresse pas, le drame complètement individuel, personnel et égoïste non plus. Donc moi j'aime bien de toujours trouver des textes ou des thèmes qui me permettent de la petite histoire aller vers la grande histoire, en fait.
Et le caractère intemporel aussi des mythes, oui. Ça veut dire qu'on peut aller chercher quelque part, loin parfois, pour Virgile c'est moins 30 avant Jésus-Christ.
Voilà, pour interroger le présent, si tu veux, pour inventer un futur. Quoi.
Ça a quelque chose de rassurant pour pouvoir se dire qu'on a vécu ça avant, que ça... On en a parlé, ça a été des thématiques.
Non, je crois pas que ça soit rassurant. Enfin, moi, ça me rassure. Oui, oui, ça me rassure, mais en même temps, ça me permet de me raccrocher, de me dire, ben, on vient de quelque part. Et puis, je crois que c'est important d'interroger ce passé pour mieux comprendre notre présent et pour aller vers un futur. Ça, vraiment, ces trois temps, je crois qu'ils sont nécessaires. Et c'est ce qui me permet, moi, de rester dans mon instant présent, en fait. Donc, de savoir qu'il y a un passé et qu'il y aura un futur.
On ne poserait jamais peut-être la question à un autre ou une autre neuchâteloise, mais quelle est la relation que toi tu as avec cette ville suisse qu'est la tienne ?
Je l'ai beaucoup détestée, c'est pour ça que je l'ai quittée pendant 12 ans. Et puis, c'est amour-haine. Hein. Mais j'y suis revenue parce que vraiment le paysage, le côté assez sauvage du lac par moment, des montagnes, ça m'inspire énormément. Et dans mon métier artistique, c'est important d'avoir des endroits d'inspiration et porteurs, ressourçants. Et c'est très très ressourçant, je trouve, de se retrouver sur les bords de ce lac qui est très très changeant. Et puis après, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Donc voilà. Mais moi, j'adore bouger, j'adore voyager. Donc c'est bien Neuchâtel parce qu'on est, comme disait Durenmat, il y a une gare qui est très bien desservie, puis on peut être très vite très loin et puis on peut très vite revenir dans notre intimité et notre solitude.
Fabrice, notre programmateur, nous en parlait tout à l'heure dans sa chronique, mais quelle est la notion pour toi de maison ? Comment tu la définis ?
Alors moi, la maison, c'est le petit... C'est l'espace ressource. C'est vraiment l'espace de vibration positive, c'est l'espace de repos, c'est l'espace où tu peux tout lâcher, c'est la maison, c'est l'endroit où je peux me recueillir, où je peux inviter ma famille, l'homme que j'aime, mes amis. Et pour moi, c'est le lieu de rencontre. Alors maintenant, j'en ai plusieurs des maisons.
Ah ouais.
Alors, il y a ma maison à moi, mais vraiment, je crois que l'autre maison, c'est le théâtre. La maison du théâtre, c'est là, voilà. Là, hier soir, j'ai vu tous ces spectateurs. La salle était complète. C'est juste magnifique de te dire, pendant une heure et demie, on va vivre la même chose, ensemble. Vous d'un côté et nous de l'autre.
D'ailleurs, tu parles souvent du théâtre que tu fais comme une expérience plutôt que comme une histoire racontée ou un propos. Une expérience sensible.
C'est le théâtre
sensible.
De la perception. Ouais. C'est... Je cherche toujours dans mes mises en scène et quand je guide et dirige les comédiens à trouver l'essence, à aller dans les profondeurs pour en tirer plutôt le ressenti et de faire vivre aux gens justement des émotions. Donc de travailler plus avec l'aspect émotionnel de la personne plutôt qu'avec l'aspect relationnel. Je trouve que voilà, la tête, c'est bien si on peut la lâcher un peu. Et alors ce qu'on se disait hier, c'est pas évident hein, parce que nous sommes quand même dans une culture de l'idée, de la tête, le corps est un peu oublié. Et quand tu es face à un spectacle où justement ça te secoue, eh bien il y a des gens qui se bloquent, qui se braquent et qui n'entrent pas en matière. Alors qu'est-ce qui se passe après chez eux, je n'en sais rien, parce que l'insensibilité, ça n'existe pas vraiment à mon avis. Mais sur le moment, je pense que hier soir, il y a des gens qui ont serré les dents pour... ils ne voulaient pas entrer, quoi. Enfin, dès que tu es en rapport avec ton corps, il y a des gens, ils refusent, hein, ça, ils se blindent.
C'est une grande question, mais je vais te la poser, Sandra. Ouais. Est-ce que le fait d'aller voir un théâtre, d'aller voir une pièce de théâtre un mardi soir peut changer une vie, changer la vie d'un spectateur ?
Moi, je pense, ouais. Je pense que oui, parce que c'est dans ce sens-là que je fais du théâtre. Alors changer radicalement ta vie, peut-être, oui, soyons fous, mais un petit peu quand même. Moi, quand je vais voir un spectacle, j'espère sortir de là un petit peu moins con que je l'étais quand j'y suis entrée, tu vois. Dans le sens où c'est aussi ça, le théâtre, c'est que ça me fasse avancer dans ma vie. Et que ça me questionne, que c'est pas la télévision, justement. Je suis pas passive au théâtre, je suis active. Et en tant que metteur en scène, je défends ce type de travail-là, de mettre le spectateur au travail. Alors, moi, ça m'a changé ma vie, par exemple.
Quand tu dis le mettre au travail, ça veut dire que concrètement, il est actif, il fait des choses, il produit. Qu'est-ce qui se passe pendant...
L'adrénaline. Il mord son voisin. Ah oui, il mord son voisin, peut-être. Non, mais je pense que... j'ai eu un très, très beau témoignage hier soir. C'est une femme qui me disait... J'avais tellement pas envie de craquer que je me suis jamais appuyée sur mon fauteuil et je me tenais droite parce que je sentais que j'avais la boule au ventre, quoi. Et donc cette femme, elle a fait tout le spectacle debout, enfin debout, elle était assise, mais dans sa verticalité, si tu veux. Et donc là, elle était totalement en action, cette femme. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fou. Après, ça peut être, quand je dis le travail, c'est de se mettre en action interne, si tu veux, intellectuelle aussi, hein, et émotionnelle surtout. C'est ça, quand je dis le travail.
Sandra Meudieu, tu as réalisé plus de 20 mises en scène, en oui, tout, à peu oui, près. Mais un spectacle qui t'a fait, on peut dire, décoller, c'était en 2005, Jennifer, ou la rotation du personnel navigant, oui, avec Sébastien Grosset, d'ailleurs, à l'écriture, oui, avec qui tu travailles toujours. Un spectacle qui a beaucoup tourné, qui s'intéressait à la figure de l'hôtesse de l'air. là aussi, un personnage migrant, hein, à sa façon. Oui. Raconte-nous comment ce personnage a atterri, là, pouf, dans ta tête.
Alors, c'est de nouveau un peu biographique, c'est-à-dire que je peux le dire sur les antennes de Griffe, vu que je l'ai dit sur les antennes de la RTS.
Donc, on n'a plus la primeur, mais voilà, dis-le quand même.
Voilà, je suis désolée, Griffe. Mon père m'a demandé, donc il était un peu désespéré que je sois comédienne, et il a insisté encore un petit peu, que j'avais 26, 27 ans, il m'a dit, mais tu voudrais, toi qui aimes les voyages, qui aimes les langues, qui aimes les gens, bon, c'est bien la comédie, mais peut-être tu pourrais faire hôtesse de l'air, c'est un peu la même chose, non?
Oui.
Et ben voilà, il avait raison, et donc j'ai repris cette figure, parce que je trouvais que finalement, c'était tellement vrai ce qu'il disait. Et donc j'ai guidé, ces quatre comédiennes, mais cette figure, elle me permettait surtout de raconter le vertige de la vie, le vertige... Voilà, c'était un moment sociétal, où il y avait un peu du vertige un peu partout. Donc,
dans le sens incertitude
ou... Incertitude, perte de repère, plutôt perte de repère en fait. Tu vois, on venait de passer les années 2000. Donc là aussi, je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est peut-être une figure qui peut me permettre d'être catalyseur d'une ambiance... dans un contexte ambiant un peu vertigineux comme ça, et donc c'est sur ce thème-là du vertige que nous sommes partis avec Sébastien Grosset. Donc moi je lui ai amené les hôtesses de l'air, enfin la figure de l'hôtesse de l'air, et lui il m'a amené le thème, et enfin il a précisé le thème et il m'a amené un texte, voilà. Et là, par contre, sur l'Énéide, une Énéide, moi je lui ai amené le texte, et lui il m'a proposé les six figures représentant Énée, qui sont le migrant, enfin l'émigré, le migrant, l'immigré, le colon, le conquérant et le touriste. Donc c'est ce qu'on voit aussi dans le spectacle.
Sébastien Grosset, ton dramaturge, mm-hmm, en tout cas ton dramaturge, le dramaturge avec qui tu travailles.
C'est à moi, c'est le mien.
C'est pas qu'à toi. Une relation ultra importante, on imagine, surtout quand on va rechercher des textes anciens.
Oui, alors, parce que il a pu avoir une lecture aussi moins émotionnelle que moi, et donc il a pu dégager de cette lecture justement cette vision de cet aîné, alors que moi, aîné, je le voyais que sur un plan. Et lui, par contre, il a réussi à ouvrir ses différents plans. Et ce qui, moi, m'a permis ensuite de lui proposer d'écrire un texte sur six bateaux, donc de zoomer sur six histoires de bateaux qui ont chaviré au large de la Méditerranée ou de l'Atlantique.
Et là, on ne parle pas que des bateaux des migrants, on parle de bateaux de touristes aussi.
Et voilà, exactement. Donc le spectacle finit sur ce qu'on a appelé le catalogue des vaisseaux. Et là, c'est l'histoire, donc c'est six récits de personnes qui ont existé et qui ont, pour l'une, été sur le Costa Concordia en 2012, une autre sur le Titanic, le radeau de la Méduse, le Saint-Louis qui partait pour l'Allemagne avec à son bord des centaines de juifs sortis de Dachau et qui partaient aux États-Unis, où ils ont été refoulés d'ailleurs, ils ont dû refaire le chemin inverse, hein, puis ils ont été... dispatché en Europe, donc ça aussi c'est une histoire que je ne connaissais pas, mais c'est une histoire vraie, d'ailleurs il y a un livre qui va sortir tantôt sur ce sujet-là, et puis donc comme je disais tout à l'heure, la Méduse, qui était d'abord un bateau qui allait coloniser la Mauritanie, et finalement s'échoue, et ça devient le radeau de la Méduse, dont on connaît le fameux tableau.
Et la fameuse chanson de Brassens.
Je ne la connais pas.
En tout cas, avant de traverser le lac de Neuchâtel dans un bateau, on va encore réfléchir. On va faire un... Enfin, ce qui t'attend, c'est particulier. Hein. C'est une chronique qui est pire, qui fait plus d'effet qu'un tour du monde en avion, en bateau, avec un bébé qui a une otite à côté. C'est très, très douloureux. C'est la chronique de Mike qu'on se prépare à écouter. Et avant, on respire un grand coup.
Griffe. Les culturbitacées.
Sandra Modiot est notre invitée aujourd'hui. Ton spectacle est actuellement présenté au TPR, une Énéide d'après Virgile, un hommage aux migrants. Et quand on t'a demandé de choisir un sujet pour nourrir nos chroniqueurs, parce que c'est le principe dans les cultures bitacées, t'as choisi un sujet qui restait dans le thème, celui des migrants aussi, mais surtout celui d'aînés.
Les cultures bitacées. La chronique. Oui, celle que tu as commandée.
Tu as voulu qu'on écoute « Lamentation de Didon », un air de l'opéra de Purcell. On est au XVIIe siècle. Et Mike, cet impertinent de chroniqueur, a voulu revisiter cette air d'opéra de la plus... Ouais, de la plus vulgaire des façons. On écoute.
D'accord, merci.
Didon et Aîné est un opéra baroque anglais en trois actes écrit au XVIIe siècle par Henry Purcell. C'est l'histoire d'une reine, Didon.
Wesh, wesh, c'est moi la queen du royaume, wesh, mec!
Et d'un prince troyen, Aîné.
Ah, sur la tête de ma mère, mec. Moi, je mets pas la langue au premier rendez-vous. Je suis pas comme ça. Je suis un ce prince charmant de sa mère.
La reine Didon est amoureuse d'Aîné.
Normal.
Qui n'est pas non plus insensible au charme de celle-ci. Mais la reine craint de décevoir son peuple avec cet amour.
Mais pas du tout, gars. Moi, le peuple, j'y nique sa race. Sérieux, il se prend pour qui, lui?
Suivant les conseils de la servante Belinda, elle décide d'épouser Aîné. D'autant plus qu'une telle alliance assurait la prospérité et la paix pour tout le royaume.
Ouais, mais là, ça sent trop les couilles, mec. Moi, je connais Disney, je connais mes classiques, ça va pas le faire, quoi.
Aîné a raison. Des sorcières veulent renverser le royaume, et elles piègent Aîné en se transformant en dieu et en lui faisant croire qu'il doit quitter Didon pour sa destinée. Aîné accepte et l'annonce à Didon.
Ouais, en fait, madame, je suis désolé, je te kiffe tout ça, les sentiments, mais bon, là, tu vois, j'ai une destinée. Et puis tu vois quoi, une destinée quoi, c'est badass quand même, non?
Elle ne lui pardonnera pas cette décision.
Vas-y, dégage, Baltringue, vas-y, dégage quoi. J'ai besoin de personne, je suis la queen, man. Blah,
blah. Elle mourra quand même de chagrin après une longue lamentation, la lamentation de Didon, acte 3, scène 2, de l'opéra dont on écoute un extrait.
Ça chialeuse, ça me gaffe, sa mère, la queen de rien du tout.
Vas-y, mec, tu pars de qui, là? Moi, je te pète ta race, gars.
C'est pas si tu te lamentes comme ça, c'est clair, moi, je te laisse dead vite fait.
Mais tu vas voir qui va être dead.
Lamentation de Didon intervient vers la fin de l'opéra. Ensuite, elle meurt dans une lente agonie, troublante, déchirante. Une belle histoire d'amour.
Mais mec, je m'en bats les yeux coups de la reine Didon, tout ça. J'ai qu'à aller sur Tinder. Là, au moins, il y a de la vraie meuf, de la pure cougar, tout ça. Elle te fait tout ce que tu veux, mec, c'est dément.
L'opéra, c'est très agréable, auditivement parlant, mais il me semble que c'est pas trop adapté pour les formats courts d'aujourd'hui. On consomme tout, tout de suite, on écoute rarement un CD en entier, on échange de musique comme de chemise, alors qu'un opéra, on l'écoute, voire même, on le regarde en entier. Mais là, on n'a plus le temps.
Alors si je capte ta morale, cous, on a une génération de débiles pressés.
C'est vrai, ça. Vas-y, viens le dire en face, bâtard, on va te démonter.
On peut s'arranger, attendez.
G-R-R-I-F.
Mike qui nous fait non seulement une analyse de Didon et Aîné, une remise au goût du jour, et en plus une analyse de l'opéra en entier. Finalement, ça colle, cette histoire d'amour, de pouvoir de Didon et Aîné. Sandra, c'est quelque chose qui pourrait se passer dans la banlieue de Porrentruy?
Oui, j'imagine que oui, l'élixir d'amour. Oui, parce qu'en fait, il y a une histoire d'élixir d'amour, de Cupidon. Voilà, c'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Après le suicide, non, j'espère pas. Que ce soit pas l'issue.
On va éviter ça dans la banlieue de Porrentruy.
Exact.
Pas qu'on ait de problème.
Non.
Sandra Modiot, on te retrouve dans un instant. On parlera de la voix, la tienne, et puis celle des autres aussi.
Ok, merci.
Griffe. Sandra Amodio, la metteur en scène neuchâteloise, est avec nous. Et avec elle, on va s'intéresser à notre plus bel organe.
Les cultures vitacées.
C'est quoi notre plus bel organe ?
La voix.
Ah, bon, je l'avais dit avant, j'avais un petit peu induit sa réponse comme ça. C'est une technique de journaliste. Une voix, ça veut dire des mots, Sandra Amodio, mais ça veut dire autre chose.
Oui, ça veut une onde vibratoire, des sons. C'est plutôt ça la voix en fait. C'est tout pas de suite. Tellement les mots.
Onde vibratoire, ça sonne tout de suite un peu méditatif comme ça, aum. Mais il y a bien d'autres choses que ça.
Mais non. Alors la voix au sens premier, c'est plutôt le son en fait. Ce sont pas les mots. Enfin, c'est le son des mots. C'est ça la voix. Et puis quand je dis onde vibratoire, c'est vraiment comme en musique, t'as des ondes. D'ailleurs, toi, que tu parles aussi, on n'a pas les mêmes ondes. Ouais, c'est une vibration, en fait, des cordes vocales. Et qui voit, et cette vibration, elle va émettre des sons.
Voilà. Au théâtre, puisque c'est ta maison, tu le disais tout à l'heure, que peut devenir une voix sur scène ?
Alors, si je comprends bien ta question, c'est...
En gros, ça représente quoi comme outil du metteur en scène ? Qu'est-ce qu'on peut varier ? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme richesse ?
Alors, ce que je peux trouver comme richesse, c'est toute la puissance, la vitesse, donc de travailler l'outil voix comme un instrument. Donc avec un vocabulaire musical, c'est-à-dire de travailler ton texte, non plus justement au sens des mots, mais au sens de la musicalité. Donc tu vas travailler les volumes, les vitesses, tu vas travailler l'acoustique, tu vas travailler le timbre, la tessiture, et donc tu vas donner des pistes et de guider les comédiens en fonction de ces paramètres-là. Et après, il y a un autre travail que je fais. Alors là, par exemple, les comédiens sont professionnels. Je vais pas travailler ni la tessiture, ni le timbre, mais par contre, je les guide par rapport au volume et à la vitesse du texte.
Le reste, ils sont censés l'avoir fait avant.
Voilà, oui. Et puis, ils ont des belles voix. Et puis après, il y a tout ce que j'appelle les actions vocales. Donc, c'est comment tu teintes ton texte d'une musique qui va donner... véhiculer une intention en fait, pour pas tomber dans des intentions psychologiques.
C'est-à-dire
un surjeu. Oui, alors écoute Aurélie, moi ça va pas du tout quoi.
Là
c'est du surjeu, je m'identifie complètement, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait si maintenant je transforme ça en action vocale, mon intention est de me lamenter, vu que nous sommes dans la lamentation. Pour moi, la lamentation, c'est quelque chose qui va être plutôt au niveau rythmique, assez lent, assez grave. Donc, je vais peut-être te dire que je ne suis pas très bien là, assise sur ce siège. Je ne sais pas, enfin voilà, j'improvise. Hein.
Et tout ça sans faire de grimaces, effectivement, on est loin des jeux plus ou moins
expressionniste allemand ou naturaliste. Non, expressionniste, non. Alors, loin des jeux et des jeux exagérés. Donc, c'est là où tu vois vraiment que pour un acteur et une actrice, la voix est fondamentale.
Il y a deux écoles pour la voix, comme pour le jeu d'acteur. Il y a deux grandes écoles. Disons, la première consiste pour l'acteur à se mettre à la place du personnage. Ça s'appelle un jeu d'identification.
Exact.
Et puis celle qui prend des distances. Toi, tu es plutôt partisane des distances.
Oui, alors je suis totalement partisane des distances aussi parce que c'est mon école. Donc j'ai fait... du théâtre de marionnettes pendant 10 ans, donc ça c'est
là vraiment... on a la plus belle des distances.
Voilà, la plus belle des distances, marionnettes d'ailleurs qu'on retrouve dans le spectacle Une Énéide, hein, juste en passant. J'ai ensuite été formée avec des gens qui ont travaillé avec Grotowski, donc Grotowski qui lui-même a travaillé avec des méthodes de Stanislavski. Là, Stanislavski, j'ai aussi travaillé ça aux États-Unis, et puis aussi sur des concepts de Meyerhold, donc la biomécanique, enfin voilà. Donc le corps, la voix, pour moi au théâtre sont très très importants. Et aussi dans ma, dans mon autre travail, hein, je suis coach en prise de parole, formatrice, et voilà, donc j'ai ouvert un lieu d'expression à Neuchâtel qui s'appelle l'exprimerie, exprimerie.ch, je fais vite ma pub. Non, c'est important parce que tu poses la question de la voix et juste que tu parlais des mots, c'est ta première réaction. Donc, la communication, ce qu'on est en train de faire, le non-verbal, c'est quand même 80% de la communication. Et la voix fait partie de ce 80%, tu vois, donc il y a ce que tu dis, mais il y a surtout comment tu le dis. Donc, la voix, c'est ce qui va donner envie d'écouter, c'est ce qui va vraiment... Ok, ça véhicule un message, mais c'est cette onde vibratoire, elle va te donner envie d'écouter l'autre, de ressentir ou de pas ressentir. Et voilà, et donc, c'est un outil que j'adore et que j'exerce... avec beaucoup de plaisir.
D'ailleurs, dans ton travail de coach vocal, tu formules ça à peu près comme ça, c'est de s'affirmer en tant que soi grâce à la voix.
Oui, c'est vraiment des formations en prise de parole où tu vas mettre en jeu tous tes appuis physiques. Donc, c'est vraiment plus une question d'être dans la toute-puissance de ton discours, mais d'être vraiment dans la chair de ton discours, donc dans des appuis physiques, le corps, la voix, le regard, et d'impacter sur ton public, de créer l'alliance, parce que je crois qu'on oublie que finalement, communiquer, c'est mettre en commun, donc l'alliance, s'allier, partager.
Est-ce que certains politiciens demandent conseil ?
Pas non, oui, certains politiciens, oui.
Ah oui, on n'aura pas de nom.
Mais non, on n'aura pas de nom, il y a des partis. Moi j'ai travaillé avec des partis et je ne dirai pas lesquels.
On imagine que c'était très très à droite, te connaissant.
Oui.
Évidemment. Dans une Énéide, le spectacle que Carré Rouge Compagnie, ta compagnie, présente cette semaine au TPR, la voix, là, dans cette histoire de migrants, qu'est-ce qu'elle porte comme... pas seulement comme message, mais comme onde, justement.
Alors, dans la première partie du spectacle, les comédiens ne parlent pas. On les entend respirer, on les entend émettre des sons de vie. Alors, je te laisse imaginer que la vie, c'est aussi la peur, la tristesse ou la joie. Et puis, c'est dans la deuxième partie du spectacle où la parole va émerger. Et là, on va entendre des mots. Pour moi, c'était que justement, les migrants, on ne leur donne pas la parole. Alors voilà, c'est une idée assez premier degré, mais c'était important pour moi. Donc on ne voit pas vraiment leur visage, on les devine, ils ne parlent pas. Parce que dans la réalité, c'est ça qui s'est passé, en tout cas dans le début. Enfin, la crise migratoire, elle a depuis longtemps, mais quand j'ai commencé le projet, ces gens-là étaient vus comme une masse. Il n'y avait aucune individuation, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de prénom, il n'y avait pas de visage.
Puis il n'y avait pas encore eu la photo du gamin qui a à peu près quand même changé la donne, là, Hélène.
Exactement, voilà. Et puis c'est peu à peu qu'on a commencé à partir sur les traces des migrants, à les suivre de manière photographique ou avec d'autres médias aussi. Donc la donne, elle a un peu changé, mais moi j'ai gardé cette idée première, c'est que quand même il y a une première partie où ils n'ont pas la parole, et ensuite les comédiens viendront face au public, et là, ils prendront la parole.
On se demandera dans un petit instant si un spectacle sur les migrants est capable lui aussi de migrer.
Griffe. Les cultures bitacées. Fini. Terminé. On fait quoi maintenant ?
Ce qu'on fait, c'est qu'on doit se dire au revoir, Sandra Modio. C'est toujours ainsi.
Eh bien, c'est bien triste parce que c'était super. Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir écouté.
On t'a écouté avec une attention particulière. Une Énéide, spectacle qui parle de la thématique des migrants, présenté au TPR, au Théâtre Populaire Romand, avec Wissam Arbach, Joël Fontana, Vincent Fontana, Garance Lafata, Camille Mermet, Roberto Molo. On dit qu'on oublie toujours les acteurs, là ils sont nommés comme un générique. Et puis le son de Flex Fab, création sonore de Flex Fab, notre musicien quasi chouchou, ici à Griffe. Une mise en scène par toi Sandra Amodio qui était aujourd'hui avec nous. Un spectacle hommage comme ça aux migrants. Est-ce qu'on a l'idée qu'il va migrer lui aussi, qu'il va pouvoir tourner ultra facilement ?
Alors il va partir tout de suite après le TPR à Lausanne, la Grange de Dorigny au mois de 3, 4, 5 décembre, et puis en avril et en juin à Genève. Voilà, Carré Rouge Compagnie est une compagnie genevoise, donc je suis genevo-neuchâteloise.
Au Galpon, hein, notamment au théâtre Galpon du
Galpon. Et très... théâtre Saint-Gervais.
Il faut quoi d'autre pour que les programmateurs de théâtre comme ça s'arrêtent et achètent des spectacles? Comment on les séduit quand on est metteur en scène?
Bah d'abord, le public doit venir parler autour de lui, la presse, puis voilà, puis après, je crois que c'est surtout le spectacle, s'il est bon, il n'est pas bon, ça... C'est quand même, s'il fait le buzz ou pas, c'est quand même ce qui va provoquer l'achat.
Merci Sandra Amodio de nous avoir raconté
merci à toi,
tout
Aurélie,
ça.
C'était super.
Bon buzz.
Merci.
Et bon retour à la show pour le spectacle d'aujourd'hui. Des tonnes de portraits culturels à avaler de manière boulimique. C'est sur le site des Cultures Bitacées, c'est sur nos archives, griffe.ch/culturesbitacées. Et pendant que vous y êtes, Griffe a besoin de vous parce qu'on vous propose un sondage sur notre site internet pour démonter ou encenser cette radio à votre guise. Vous pouvez vous lâcher et on vous retrouve très très serein du coup la semaine prochaine.